Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire de Mohamed Merah, sa traque. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Magali Cottard, rédactrice en chef Isabelle Clarac. Bonne écoute. Amaury de Hautecloque, chef du RAID de 2007 à 2012.
Mon idée, c'était de le garder en lien pour commencer à ce qu'une fois que les émotions soient sorties, que la revendication de ces actes soit faite, on puisse commencer à travailler une procédure de reddition.
On croit qu'il va se rendre. À mesure des discussions, des échanges, à plusieurs moments, il laisse entendre qu'il est d'accord pour se rendre ou qu'il veut réfléchir à la question.
Le RAID accepte de lui laisser du temps. Merah s'engage à sortir au plus tard à 22h30 et engage de sa bonne foi, il révèle ses planques. À 13h, sur ses indications, une équipe ouvre ce box à l'est de Toulouse. À l'intérieur, le scooter. Les traces de peinture blanche sont encore visibles. Aucun doute, c'est le bon. Merah indique aussi l'emplacement de deux voitures remplies d'armes et de munitions. La première est garée juste devant son immeuble.
Commandant Serge Martin, expert en balistique, police scientifique de Toulouse.
Il avait effectivement un arsenal qui permettait de pouvoir faire énormément de dégâts. Dans la mégane va notamment être retrouvé un micro-Uzi qui a bien été l'arme utilisée sur les faits à Ozar Hatorah. Il y a également donc une Clio. Et à l'intérieur de cette Clio, là, nous trouvons un pistolet semi-automatique de marque Colt. C'est bien l'arme qui a tiré les projectiles qui ont atteint les victimes du 11 mars, du 15 mars et du 19 mars.
Ses armes, son scooter, Merah livre tout. Et en ce début d'après-midi, les policiers mettent la main sur une pièce maîtresse du dossier. C'est une femme qui la porte, une amie de Merah. La veille, le tueur au scooter a déposé des sacs chez elle. À l'intérieur, une caméra embarquée.
Il y a tout dessus. Voilà, il s'est filmé, il a tout filmé.
Et donc, on a pu retrouver les circonstances exactes dans lesquelles M. Imad Abziaten avait été abattu.
On voit un motard qui rentre sur le parking de la cité de Lers. Il garde la moto et très très rapidement, il lui demande « Mais t'es bien militaire ?» Et là, Imad Abziaten lui répond « Oui, oui ». Et là, il sort son arme et il lui dit « Ouais, t'as tué nos frères, mets-toi à genoux. » Et là, Imad Abziaten lui dit « Non, moi je me mets pas à genoux. » Et là, sans autre sommation, il tire.
Maître Samia Maktouf, avocate de la famille Ibn Ziaten.
C'était très important pour la famille de comprendre comment, pour quelles raisons et dans quelles circonstances leur fils est mort. Le courage et la dignité avec laquelle il a fait face à ce terroriste lorsqu'il lui demande de se coucher pour le tuer et qu'il lui dit « je ne me coucherai pas », il est mort en héros, il est mort debout, il est mort en militaire.
Sur ces premières images, Mohamed Merah paraît déstabilisé par l'attitude du militaire.
Il est hésitant. C'est-à-dire, il fait répéter plusieurs fois à sa victime « Mais tu es bien militaire !» L'autre « Oui, je suis militaire !» Comme s'il avait du mal à commettre ce premier meurtre. Et ensuite, je crois que... Avec le goût du sang, je pense que c'est quelque chose qu'il a manifestement apprécié particulièrement. Et il avait envie d'y retourner.
4 jours plus tard, à Montauban, Merah n'hésite plus. Ni même quand il abat des enfants, de sang-froid. Grâce à sa vidéo, les policiers découvrent que ce matin-là, Merah avait un autre projet.
Il avait prévu d'assassiner 2 autres militaires sur Toulouse, que ces 2 militaires étaient absents de leur domicile. Et par dépit, il s'est rabattu sur l'école Ozar Hatorah.
Il s'aperçoit que c'est l'heure de la rentrée des classes, il se dit « Ok, j'y vais, je le fais ». mais c'était pas prévu dans son esprit d'être fait à ce moment-là. Quoi, c'était parce qu'il voulait pas perdre sa matinée presque.
J'avais jamais vu des choses comme ça, moi. J'avais jamais vu des... Je pense que c'est vraiment quelque chose qui restera en ma mémoire. Je n'ai pas vu en direct comme des scènes de crime que j'ai pu voir après à Charlie Hebdo ou au Bataclan, mais c'est... Le fait de voir ça sur un ordinateur portable, à la limite, c'est encore plus déshumanisé. Et c'est carrément monstrueux.
Doit manifestement éprouver une vraie jouissance. Il est au stand de tir quasiment, quoi. C'est atroce, quoi. C'est vraiment c'est fou de voir comment. Et sincèrement, je pense que c'est un homme qui s'est transformé en monstre l'espace de 8 jours.
Face au raid, Mohamed Merah justifie tous ses crimes. Les militaires, il les a abattus pour venger ses frères morts en Afghanistan. Les juifs, parce qu'ils tuent des innocents en Palestine, dit-il.
Il est, comme tous ces individus radicalisés, persuadé d'être en lutte dans une guerre sainte, en réalité. Hein. Il ne s'appartient presque plus, d'une certaine manière. Dans son esprit, il est déjà parti.
Dominique, les policiers ont beaucoup d'informations sur le retranché. Mohamed Merah et sa famille sont déjà connus.
Oui, Mohamed Merah, il est né le 10 octobre 1988. Il a donc 23 ans. C'est le dernier d'une fratrie de 5 enfants. Il y a 3 garçons, Abdelkader, donc, qui est en garde à vue, Abdelghani et le petit dernier, Mohamed. Il a 2 sœurs, dont une qui est très radicalisée. Et tous sont d'ailleurs entendus ce 21 mars. Ils décrivent la même chose, un climat exceptionnellement violent à la maison, depuis toujours. Le père est violent et il est parti de la maison d'ailleurs quand Mohamed n'avait que 3 ans. La maman s'est retrouvée toute seule avec les 5 enfants. Elle a fait appel à un oncle pour l'aider. Et cet oncle menace ses nièces avec un couteau quand elles portent des tenues qu'il considère non adaptées. Il passe son temps sur des télévisions palestiniennes qui montrent des images d'enfants palestiniens qui meurent sous les tirs israéliens. Il a la haine des juifs et c'est dans cette ambiance que va grandir le petit Mohamed.
Et il a été pris en charge par les services sociaux ?
Il a fait plusieurs séjours dans des foyers. À chaque fois qu'il revenait à la maison, eh bien, il n'avait pas sa place. Sa mère ne tenait pas les promesses qu'elle faisait aux services sociaux en leur disant « oui, je vais m'occuper de mon fils ». D'ailleurs, c'était pire que ça. Elle partait faire des séjours en Algérie sans jamais prévenir personne. Et donc, Mohamed est un petit garçon qui, dès l'âge de 6 ou 7 ans, traîne dans la rue. Une psychologue le décrit comme un enfant triste, agressif, boudeur. La directrice du collège s'inquiète d'ailleurs, hein, et elle livrera cette phrase prémonitoire. Mohamed risque de se transformer en un adolescent dangereux au vu de ses capacités intellectuelles. Il n'y a que son frère Abdelkader qui compte pour lui, son frère à qui il voue une admiration sans borne.
Et dès l'adolescence d'ailleurs, il multiplie les délits, les vols, les violences et la prison où sa foi grandit.
Oui, et c'est là qu'il rejoint le courant du salafisme djihadiste.
Mais la même mouvance à laquelle s'est converti son frère aîné Abdelkader quelques années plus tôt, oui. Et qui fait un carton dans les cités toulousaines.
Bien sûr, et Mohamed regarde en boucle les images d'Al-Qaïda. Il a la haine des juifs, la haine des policiers.
Et à quelle date il est repéré par les renseignements ?
En 2009, la DCRI sait qu'il fréquente assidûment les cours religieux à la prison. Et il va être fiché S à son retour du Proche et du Moyen-Orient l'année suivante, 2010 puis 2011.
Les policiers et la presse sont suspendus à la reddition de Merah. Et pendant que les familles de Jonathan Sandler et Myriam Monsenego enterrent leurs morts en Israël, le chef de l'État se déplace à Montauban pour rendre hommage aux militaires.
Je suis venu m'incliner devant le cercueil de ces soldats assassinés. Je suis venu dire à leurs familles, à leurs proches, à leurs frères d'armes, le soutien et l'hommage de la nation.
Maître Béatrice Dubreuil, avocate de la famille Chénouf.
Ils sont dans la sidération, ils sont complètement choqués, en état de choc. Perdre son fils dans ces conditions, c'était surréaliste. Donc effectivement, l'État français, c'était le minimum pour ces jeunes qui s'étaient engagés pour la France et qui ont perdu la vie dans un contexte pareil.
Après l'hommage, Nicolas Sarkozy se rend à l'état-major. Le terroriste, retranché dans son appartement, défie toujours la République. Le président s'impatiente.
Éric Voulminot, patron de la sous-direction antiterroriste en 2010-2011.
Le déplacement d'un chef de l'État sur une enquête n'est pas habituel. Et évidemment, cela amène une pression toute particulière. L'ambiance était extrêmement, extrêmement lourde.
Mohamed Merah va-t-il se rendre, comme il l'a promis, à 22h30? Le président le veut vivant. Tout est prêt pour sa sortie.
François Molins, procureur de la République de Paris de 2011 à 2018.
C'est vrai que c'est un espoir qu'on avait, hein. Effectivement, où il y a toute une négociation sur les conditions de la reddition, hein, où à un moment donné, de mémoire, il est prévu qu'il doit sortir en caleçon. Bon, tout le monde y croit à cette époque.
Amaury de Hautecloc, chef du RAID de 2007 à 2012.
Dans toutes les procédures de reddition, la personne doit venir le moins vêtue possible, les bras en l'air. J'ai des moyens d'éclairage pour toute la rue pour être sûr que tout se passe correctement. Donc tout est clair, tout a été validé avec lui.
À 22h15, les policiers chargés de l'arrestation sont en place. Le négociateur rappelle Mohamed Merah.
Je dis pas, t'as un problème, t'as une contrariété, il y a quelque chose qui te dérange dans tout le processus.
Non, rien ne me dérange, c'est que je peux pas me livrer comme ça, tu vois. Comme j'ai dit, j'ai pas peur de la mort, sinon j'aurais pas fait tout ça.
Et là, il me dit non, je sortirai pas. J'ai barricadé mon appartement, j'en ai fait une zone de guerre. Je sais et je connais vos méthodes d'intervention.
J'irai jusqu'au bout et si c'est moi qui meurs, ben, tant mieux pour moi, j'irai au paradis. Et si c'est vous, tant pis pour vous.
Sachez une chose, que moi aussi j'ai investi beaucoup d'entre vous.
Ouais, c'est souvent à voir, hein.
À 23h, le raid donne l'assaut.
Les premières grenades en fait, qui vont être lancées le sont sur les volets du balcon et sur la fenêtre de la cuisine.
Amaury de Hautecloc, chef du RAID de 2007 à 2012.
Les volets sont des volets en fer et ils sont fermés. Et on a des systèmes, nous, de grenades qui, à l'impact, ouvrent les battants. Et au moment où on lance les premières grenades, on entend deux coups de feu vers la rue. Et puis plus rien. Plus de contact, il ne nous répond plus au talkie-walkie, il ne répond plus à la voix, il n'y a plus de riposte.
Mohamed Merah s'est-il donné la mort? Le patron du raid en doute. Toute la nuit, il envoie des grenades à intervalles réguliers.
Après, les grenades qui vont suivre vont être plus pour lui mettre de la pression, l'empêcher de se reposer, voire même de créer une réaction qui pourrait peut-être à un moment donné lui faire prendre conscience que peut-être que la meilleure solution c'est de se rendre. Et comme justement, il répond pas, on se dit de toute façon que les chances qu'il se rende s'amenuisent, qu'il va falloir rentrer dans l'appartement, qu'il va falloir l'investir. Donc on est tout doucement en train de préparer notre assaut.
6h du matin. Sans nouvelles de Merah, les hommes du raid cherchent à le localiser.
Donc ce qu'il est décidé dans un premier temps, c'est de faire une phase de travail technique. Donc avec une partie de mes effectifs, on va à l'aide de caméras voir un petit peu ce qu'il en est, de manière justement à pouvoir le localiser dans l'appartement.
Que les éléments de sonar que nous avons nous indiquent qu'il y a toujours un corps dégageant de la chaleur derrière le mur de la salle de bain.
Merah est probablement retranché dans la salle de bain. Les hommes du raid se mettent en place. Une équipe à l'entrée de l'appartement, une autre sur le balcon. De l'autre côté de la rue, les snipers assurent leur sécurité. À 10h45, tout est prêt. L'assaut peut commencer.
Les deux parties commencent à progresser. On voit rien. Il n'y a plus d'électricité, il y a plein d'eau, on ne voit pas bien où on met les pieds, il y a des meubles partout par terre qui sont mis sous forme de barricades et donc on progresse tout doucement. Il n'est pas grand l'appartement, hein, c'est un deux pièces. Hein. Ben, on va mettre pas loin d'une demi-heure, trois quarts d'heure pour arriver jusqu'à la salle de bain. Et puis au moment où on arrive sur la zone de la salle de bain, elle commence à percer le placo-plâtre de la salle de bain pour essayer d'y passer des grenades. Et c'est à ce moment-là que Mohamed Merah sort de la salle de bain, arme au poing, tire sur les deux axes de progression qui étaient en cours, celui qui venait de la fenêtre et du balcon et celui qui venait de la porte d'entrée de l'appartement.
En réalité, c'est Mohamed Merah qui donne l'assaut aux policiers.
Christian Lothion, patron de la direction centrale de la police judiciaire.
J'imaginais le courage des gens du RAID qui, quand ils interviennent et qu'ils se font tirer dessus au 1143, eux, ils essayaient, avec le taser, de le neutraliser. Le but, c'était de le prendre vivant.
Un policier est touché au cou. Le patron du RAID autorise ses hommes à faire feu, mais sur des zones non létales.
La chose extraordinaire, c'est que ça ne produit aucun effet sur sa personne. Et à telle enseigne qu'il commence à progresser vers le balcon. Là, il y a un sniper qui le touche à la main. Mais ça ne change absolument rien. Il continue et il réussit à passer la main au-dessus du balcon et à tirer sur les opérateurs qui étaient juste en dessous.
Tout s'est passé extrêmement vite. Hein. On parle de fractions de seconde. Il apparaît au balcon, il tire sur tout ce qu'il voit. Et quasiment simultanément, je sens une douleur assez vive au pied gauche.
Un blessé, on évacue. Un autre blessé, on évacue. Je me dis, il va nous en tuer combien, quoi ?
Vous entendez des vacarmes, des échanges de tirs. Vous ne savez pas qui fait quoi. Et c'est des périodes qui sont effectivement des périodes de très forte angoisse et anxiété.
Je me dis, maintenant c'est plus possible parce que là il peut tirer dans tous les sens, y compris jusqu'au camion des pompiers qui était à 150 mètres et qui bloquait la rue. Des journalistes étaient finalement pas si loin que ça derrière. Et à ce moment-là, c'est plus possible. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans une zone confinée et la situation, si vous ne voulez pas qu'elle vous échappe, n'a plus d'autre moyen. Donc on fait un tir de riposte. Il va basculer sur le dehors du balcon et se trouver donc dans la rue du sergent Vigné.
Le terroriste est mort.
Olivier Christen, chef de la section antiterrorisme au parquet de Paris.
C'était, je crois vraiment pour tout le monde, un épilogue qui n'était pas prévu. Ça veut dire qu'on ne pourra pas l'entendre, ça pourra dire qu'il ne sera pas jugé, ça veut dire qu'il ne rendra pas ses comptes tels qu'on entend qu'on rende ses comptes dans la justice en France, en étant devant un tribunal et une cour d'assises, et en s'expliquant et en étant jugé. C'est le but est évidemment jamais que la personne soit tuée lors de son interpellation.
La polémique immédiate, c'est pourquoi on n'a pas eu vivant, pourquoi on n'a pas psy, ça a des donneurs de leçons, on n'en manque pas. On est allé au bout, du bout, du bout de ce qu'on pouvait faire. Mais c'est la première fois qu'on avait rencontré un kamikaze sur notre sol, de toute façon. Et je me dis, Dieu merci, j'ai pas eu de mort. C'est moi, c'est ça qui m'importe. Ouais.
Après 10 jours de traque et 30 heures de siège, le terroriste est hors d'état de nuire. Mais sa mort ne met pas un terme à l'enquête. Les familles veulent comprendre et l'État a besoin de savoir pour lutter contre le terrorisme. L'instruction doit notamment déterminer si Mohamed Merah était un loup solitaire ou s'il avait des complices. Si Mohamed Merah a bénéficié de complicité, c'est d'abord dans son cercle le plus proche qu'il faut les chercher. À commencer par son frère, que les policiers interrogent immédiatement en garde à vue.
Christophe Tessier est vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
Abdelkader Merah s'en cache pas. Il dit « j'ai une pratique radicale de la religion ». Il s'en cache pas, il assume, etc. Il emploie le terme d'être fier de son frère. Il va être aussi découvert un iPod sur Abdelkader Merah, dans lequel il y a des passages d'un émir qui donne des conseils à des djihadistes en herbe pour pouvoir échapper à la police, au service enquêteur, qui semble être en adéquation avec ce qu'a fait Mohamed Merah.
Dans ces fichiers, le mode d'emploi du parfait djihadiste appliqué à la lettre par Mohamed Merah. Le terroriste pourrait donc avoir été inspiré et conseillé par son frère. Mais lui a-t-il demandé une aide technique, matérielle ? Les policiers n'ont rien, aucune preuve. Alors ils discutent avec Abdelkader, des attentats, du scooter. Saviez-vous que votre frère possédait un T-Max ? Et le garder à vue va leur livrer l'information qui change tout. J'étais avec lui quand il l'a volé.
Si on arrive à déterminer qu'effectivement il a participé en connaissance de cause au vol d'un scooter que va ensuite utiliser Mohamed Merah pour l'ensemble des actes qu'il accomplit, ça constitue un élément matériel de la complicité.
Abdelkader Merah n'est pas avare de détails. Il raconte que Mohamed a loué une Clio. Et le 6 mars, 5 jours avant le premier attentat, ils sont partis tous les deux en repérage. C'est Abdelkader qui conduisait. Quand Mohamed a repéré un scooter garé moteur en marche sur le parking d'un garage automobile, il a demandé à son frère de s'arrêter. Une minute plus tard, il sortait en trombe au guidon du scooter.
On s'aperçoit que ce même 6 mars, juste avant le vol du scooter, Abdelkader Merah et Mohamed Merah vont ensemble dans un magasin d'accessoires moto et vont acheter un blouson.
Le blouson que Mohamed Merah portait pendant tous ses crimes. C'est Abdelkader qui a réglé la facture. Quelques jours plus tard, toute la presse parlera d'un tueur au T-Max avec un blouson noir. Abdelkader pouvait-il l'ignorer ?
Maître Elie Korchia, avocat de Samuel et Myriam Sandler.
Le 6 mars, soyons clairs, les deux frères ne se quittent pas. Ils sont en contact constant. Donc je dirais que la journée du 6 mars, c'est un élément très 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 sérieux qui permet donc de retenir la complicité d'assassinat.
Mohamed Merah avait-il informé son frère de ses projets d'attentat ? Abdelkader jure qu'il n'en savait rien. Difficile de prouver le contraire. Mohamed Merah n'a jamais eu de téléphone portable. Alors, les policiers multiplient les auditions pour reconstituer son emploi du temps et celui de son frère.
Christophe Tessier est vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
L'enquête va aussi permettre d'établir que Mohamed Merah et Abdelkader Merah ont alterné des périodes où ils se parlaient et des périodes où ils ne se parlaient plus. Et puis ensuite, lorsque les attentats vont commencer, ils vont se rencontrer presque systématiquement, soit juste avant, soit juste après les faits.
Maître Elie Korchia, avocat de Samuel et Myriam Sandler.
Et ces rencontres-là ne permettent pas d'imaginer qu'Abdelkader ne savait pas ce qui était en train d'être fomenté par son frère. D'autant plus que lui, il est dans la radicalité islamiste depuis des années. Et effectivement, on sait très bien qu'il a pu servir à un moment donné de mentor, d'idéologue auprès de son jeune frère qui lui était plus le bras armé.
Christophe Tessier, vice-président chargé de l'instruction au tribunal judiciaire de Paris.
Et donc, notre instruction permet de dire oui, il faut qu'il y ait ce débat, oui, il faut que Abdelkader Merah comparaisse pour qu'effectivement il soit jugé sur ces éléments que l'on a recueillis.
L'instruction cherche aussi à savoir comment Mohamed Merah s'est procuré ses armes. Les policiers continuent donc les auditions dans son entourage et entendent un certain Feta Malki, notoirement connu comme le commercial du quartier des Isards. En garde à vue, l'homme finit par reconnaître qu'il a vendu à Mohamed Merah un gilet pare-balles et qu'il lui a donné des armes. Un aveu qui colle avec les déclarations du terroriste.
Dans les négociations, Mohamed Merah dit à un moment donné, les armes étaient humides et Louzi s'est enrayé parce qu'il était tout rouillé et encore humide. Et on sait, parce que va dire Peter Malki, qu'il avait enterré ses armes et qu'il avait énormément plu. Et que c'est parce qu'il avait plu qu'il les avait déterrées. Donc il y a véritablement là une concordance. Mais pour Peter Malki, on n'arrive pas à déterminer qu'il y a eu une complicité. Là, pour le coup, il y avait un acte matériel, mais il nous faut aussi l'intention. Et là, l'intention, on ne l'a pas eu.
Feta Malki et Abdelkader Merah sont donc renvoyés tous les deux devant une cour d'assises spéciale à Paris, constituée de magistrats professionnels. En octobre 2017, Abdelkader Merah est reconnu coupable d'association de malfaiteurs. Il est condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Feta Malki prend 14 ans. Mais en appel, le verdict est allégé pour le vendeur d'armes. 10 ans. Tandis que la peine s'alourdit pour Abdelkader Merah. Cette fois, la cour retient la complicité d'assassinat et le condamne à 30 ans de prison. Mohamed Merah, lui, a échappé à jamais à la justice des hommes.
Vous venez d'écouter le dernier épisode de Faites entrer l'accusé consacré à la traque de Mohamed Merah. Si vous avez aimé ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode de votre podcast Faites entrer l'accusé.